la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM. Et cette semaine, « Je lire » des revues. La revue 303, Art, Recherche, Création. Revue produite dans la région des Pays de la Loire et qui, comme son sous-titre l'indique, développe à travers chaque trimestre un thème, un mot-clé, un certain nombre d'articles autour de la recherche, autour de l'art, de la création. Le dernier numéro en date, qui vient tout juste de sortir, numéro 173, pour cet automne 2022, est sous-titré « Masque » au pluriel. Il s'agit donc de comprendre qu'est-ce que le masque dit de nous. On commence au musée et on termine dans la rue. Il s'agit, à travers un certain nombre d'articles, de décrypter qu'est-ce que le masque propose, qu'est-ce que le masque dit des morts, qu'est-ce que le masque dit des travestissements, qu'est-ce que le masque dit du geste politique aussi, qu'est-ce que le masque aussi, devenu symbole très fort d'une période de pandémie, dit d'un certain nombre de métiers. C'est notamment l'objet de deux articles qui ont particulièrement retenu mon attention. Un article signé Frédéric Letourneux qui parle du travail masqué, travailler masqué, porter le masque obligatoire dans certains secteurs professionnels. Tout d'abord sur le site de la fonderie Bouillet à Ancenis, où les travailleurs sont masqués pour des raisons de santé au travail, mais aussi dans l'EHPAD Charles Marguerite à Aisnay, où là, les conséquences des confinements et différentes mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie de Covid-19 sont assez nombreuses dans la psychologie du travail des soignants et soignantes en compagnie des résidents de l'EHPAD. C'est un très bel article, très juste, qui détaille le quotidien de ces travailleurs, signé donc Frédéric Letourneux dans ce numéro masque de la revue 303. Et juste après, un article de David Prochasson qui parle du masque, un répertoire d'actions politiques créatives, et qui recense, sur la dizaine d'années qui vient de s'écouler, un certain nombre d'actions publiques et d'actions de rue, et certaines dans notre région, et notamment à Nantes, avec des manifestations et des luttes sociales et politiques qui sont masquées ou qui sont travesties. On a évidemment l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais bien d'autres exemples qui sont développés dans cet article de David Prochasson qui recense à travers les différents masques et les différents travestissements eh bien, les différents groupes de lutte qui sont toujours actifs dans nos sociétés et qui tentent un contre-pouvoir d'une certaine manière. Ce numéro masque de la revue 303 a une couverture signée Makiko Furuichi, qui est également l'autrice de la carte blanche qu'on retrouve à l'intérieur de la revue en fin de dossier masque, de très beaux masques à l'aquarelle sur un fond blanc très vif. C'est un très très beau travail. Vous pouvez vous procurer cette revue pour 15 euros dans les différentes librairies à Nantes ou ailleurs, et la commander également sur le site des éditions 303, www.éditions303.com, 303 en chiffres. Le numéro d'avant, qui est toujours disponible, était consacré aux peintures murales dans l'espace public, et il s'intitule « Refaire le mur ». Il est sorti à l'été 2022. Et dans Refaire le mur, on développe de la même manière sur 96 pages, tout en couleur et avec de très belles photographies, et pour 15 euros, eh bien, tout ce qui fait la peinture murale, le tag, le street art, et un certain nombre d'actions qui sont publiques, qui sont dans l'espace public. On a là aussi une approche à la fois historique et artistique, voire commerciale, de la peinture murale, mais et toujours sous la plume de Frédéric Letourneux, un peu d'action politique aussi et sociale, notamment cet article donc « Quand la colère s'affiche sur les murs », à partir du témoignage et de la documentation des colleuses, les collectifs de collage féministes qui se développent un peu partout en France et à Nantes notamment. Il y a notamment le témoignage de quelques-unes des colleuses, anonymes ou pas, notamment certaines qui font l'objet d'un procès encore en cours, dont le délibéré est à venir dans les jours qui viennent. Un procès pour des faits qui remontent au 14 juillet 2020, où quatre femmes ont été interpellées par les forces de l'ordre après avoir collé un message qui visait directement Gérald Darmanin. Mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'elles sont en procès, mais pour une accusation de rébellion en réunion sans armes. Le 28 novembre dernier se tenait au tribunal de Nantes l'audience de ce procès, où les quatre femmes sont donc accusées et poursuivies par les policiers qui les ont interpellées. Et j'ai recueilli la parole de Marianne Thion, l'une des quatre qui est poursuivie pour la plus grave des accusations et qui encourt une peine telle que le procureur l'a requis de 4 mois avec sursis. J'ai recueilli un peu de ses propos juste à l'issue de cette audience. Le délibéré aura lieu lundi prochain, le 12 décembre, aux alentours de 14h, pour savoir quel sera le verdict rendu par le tribunal. On termine donc cette chronique Je lire avec quelques propos de Marianne Thion, militante, féministe, active.
Alors c'est bien qu'il y ait un délibéré, parce que ça veut dire que la juge va prendre le temps de revoir le dossier. Sinon elle fait un truc à l'emporte-pièce, donc moi je trouve que c'est très professionnel de sa part. Je pense pas que je serais relaxée, parce qu'il faut quand même me taper sur les doigts un petit peu. Je pense que mes deux co-prévenus qui sont juste pour la rébellion seront relaxés. Il y a des chances qu'il n'y ait rien dans le dossier. La collègue que j'ai voulu protéger, moi, je pense qu'on va prendre une petite tape sur les doigts à base de 2 mois avec sursis. En revanche, là, s'il y a des dommages intérêts qui sont accordés, là, je ne vais pas être d'accord du tout, du tout, du tout. Moi, je pense les attaquer au tribunal administratif. Attaquer l'État en tant que donneur d'ordre, parce que ce sera le seul moyen que j'ai d'être indemnisé des préjudices nombreux que j'ai subis. Donc c'est une procédure que je ne m'interdis pas. Je vais voir quelle peine je prends.
Il y avait une grande violence aussi dans ce qui s'est passé pendant l'audience, enfin moi de mon point de vue de spectateur, à la fois dans les propos par exemple tenus par le procureur, ce que votre avocat a dit sur la manière de vous délégitimer même dans l'action, qui vous a été, même, c'est même pas cette action-là d'ailleurs qui est reprochée, le fait d'être dans cet immense tribunal qui est une espèce de temple du patriarcat extrêmement assis, les lois qui ont été créées par des hommes.
Jean Nouvel. Voilà. Jean Nouvel qui a dit, quand il a fait ce bâtiment, je veux que les gens sentent le poids de la justice. Ah ben, on le sent bien, le poids de la justice. Hein. Bien écrasant, ouais.
Donc j'imagine que ça vous fait bouillir quand vous êtes dans une situation comme ça. Non seulement il faut venir se défendre d'une accusation qui est complètement délirante, et en plus à l'intérieur d'un contexte qui, de toute façon, comme si l'idée était déjà pipée.
Alors, moi j'ai toujours dit à mes co-prévenus, parce qu'en fait, dès le départ, alors faut savoir que l'enquête IGPN, moi j'ai porté plainte contre eux, j'ai 14 jours d'ITT, les violences ont été reconnues, mais comme légitimes. Par contre, l'IGPN n'a pas reconnu les violences que moi j'ai commises à leur égard. Je n'ai pas produit cette procédure pour des questions de défense collective, en fait, parce que ça chargeait trop une de mes co-prévenus. Mais l'IGPN a reconnu les violences que j'ai subies, les a considérées comme légitimes, mais il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai quand même été entendue par l'IGPN. C'était le seul moyen pour moi de dire réellement ce qui s'était passé. Et j'ai toujours dit à mes collègues... Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Dans la procédure IGPN, les policiers ont été entendus en qualité de témoins. Mignon, ça. Donc, nous, la présomption d'innocence, ça ne marche pas. Eux, en plein. Donc déjà, là, ça ne va pas. Moi, j'ai toujours dit à mes co-prévenus, la police n'est pas la justice, alors que la police nous a jugés et condamnés dès le premier soir. Et je leur ai dit, la justice, c'est pas la police. La justice saura faire la part des choses. On est là pour justement expliquer ce qui s'est passé, en espérant que la justice saura faire la part des choses. C'est vrai qu'on est dans une séquence quand même un peu particulière en matière de violence policière, depuis quelques années, et notamment depuis Castaner. C'est une question qui, moi, m'intéresse depuis longtemps, avant même qu'il m'arrive ça. J'ai deux marottes, moi, c'est les violences policières et le féminisme. Et là, du coup, ça réunissait les deux. C'est ce que je disais. En fait, on a été victime de violences parce qu'on dénonçait des violences et de la part des gens qui sont censés nous en protéger. C'est quand même balèze, quoi, ça. C'était très simple, il suffisait de nous dire, ça nous est arrivé plein de fois. Ok, vous décollez les affiches, ok, merci, au revoir. Et voilà, quoi, hein. C'est la seule fois où ça s'est passé comme ça. La BAC, un mois avant, nous avait arrêtés. J'avais développé les mêmes arguments Vous n'avez aucune raison valable de nous interpeller. Ça a duré 20 minutes de tergiversation, mais ils sont partis. Et ils nous ont laissés tranquilles. Donc là, on sentait vraiment qu'il y avait une volonté réelle, sexiste, de nous donner une bonne leçon. Mmh. Et c'était vraiment sexiste. Moi, on m'a traité de petite teigneuse. J'ai eu droit à un traitement de faveur parce que je suis la plus vieille, donc ils pensaient que j'étais la chef. Et parce que je me suis jamais laissée faire. Quand j'ai dit à un moment donné au commissariat Valdecrousseau, j'ai dit c'est quand même marrant la différence de traitement, de rapidité de traitement entre ce que vous nous faites à nous. Et la manière dont vous traitez les plaintes pour viol et violence dont on est victime. J'ai été victime de viol, j'ai été victime de violence conjugale, j'ai été victime de tentative de féminicide par deux fois, je sais de quoi je parle, je suis une personne concernée. Donc le fait de se retrouver sur le banc des accusés, parce que, et c'est ce que mon avocat a dit, c'est aussi tout ça qui a joué. C'est mon passé à moi, où je me suis dit, j'en ai marre de me soumettre. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en droit français, on doit se soumettre à un contrôle, même s'il est illégal. Et si on ne se soumet pas, on se rend coupable de rébellion. On n'a pas de droit à la rébellion. Et moi, depuis que j'ai subi les violences que j'ai subies, on m'a dit, ça va bien se passer. On m'a dit, calme-toi. On m'a dit, ferme-la. Et depuis ces moments-là, je me suis dit, c'est fini. Je ne me soumettrai plus jamais. À de la violence, à des choses injustes, c'est terminé. Même s'il faut prendre des risques pour ça, c'est plus supportable pour moi.
Ce qui se passe là, ce phénomène-là, ce procès, c'est aussi un point d'orgue de toute une vie de combat.
Oui. Alors, j'ai combattu toute ma vie. Enfin, je suis rentrée dans le militantisme avant, avec les collages, moi. Avant, je militais toute seule dans mon coin, en sensibilisant, en discutant, etc. Mais les collages, ça a été vraiment la première fois que j'en ai vu. Je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça parce que ça pète à la gueule des gens. On ne peut plus dire on ne savait pas. Quand on colle que 1%, même pas, c'est 0,6% des viols qui sont condamnés aujourd'hui. Quand on colle ça, les gens ne peuvent plus dire on ne savait pas. Toute cette impunité-là, 90% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite. 80% des plaintes pour violence conjugale sont classées sans suite. Elle est là, l'impunité. Et je ne peux plus supporter. Parce que c'est des mortes tous les deux jours. C'est ça l'impunité. C'est nous qui mourons tous les jours. Alors quand on nous dit, nous féministes radicales, on veut la guerre contre les hommes, mais non, nous on veut juste la paix en fait. C'est les hommes qui, le patriarcat en tout cas, qui nous fait la guerre. C'est eux qui violent, c'est eux qui tuent, c'est eux qui agressent. Et quand ce sont des hommes qui sont violés, ce sont d'autres hommes qui les violent. Donc nous, c'est pour ça, c'est pour, contre ça qu'on lutte. C'est pour la fin de l'impunité, la fin du patriarcat et le fait de pouvoir juste vivre en paix.
Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je me pose la question, c'est ainsi de savoir si un jour une réconciliation possible.
Alors, moi j'ai deux fils, hein, dont un qui est là ici. Donc il n'est pas question de mettre tous les hommes dans le même panier, etc. Moi je lutte contre un système de domination patriarcale. Et contre tous ceux qui, évidemment, participent à ce système-là. Et pour moi, la police, c'est le patriarcat au carré, parce que c'est des hommes, et en plus, ils ont la loi pour eux. Donc ça me fout encore plus en run, bien évidemment. Est-ce que ça aura une fin? Ça aura une fin, déjà, quand l'éducation... C'est un collage qu'on faisait, ça. On barrait « Protégez vos filles », on le barrait, et on marquait « Éduquez vos fils ». Tant qu'il n'y aura pas d'éducation affective, on est hors la loi depuis 21 ans en France là-dessus. Il n'y a toujours pas de cours d'éducation affective et sexuelle dans les écoles, alors que c'est obligatoire depuis 2001. Tant qu'il n'y aura pas d'éducation des plus jeunes, tant que les policiers ne seront pas formés systématiquement à la question des violences de genre, tant que les magistrats ne seront pas formés systématiquement aux violences de genre, tant qu'il n'y aura pas des juridictions spécialisées comme en Belgique, comme en Espagne aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. C'est vraiment le problème de l'ensemble de la société, quoi.
En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre. Gambetta, leader incontesté. touche, car il n'y en a pas, de même qu'il n'y a pas d'homme de gauche. Quand il s'agit de femmes, il n'y a que des hommes de droite dans la seule patrie existant sur la terre. Patria, patriarca, patriarca. Patriarca, 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 patrie, patriarca, patrie. La maison, comme dit Angèle, il me semble, j'ai tort peut-être, je l'adore. Des amis viennent, je peux les toucher, je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence, j'habite là, je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton, sur toute la terre. Tu n'as pas froid, la terre va encore se refroidir. Réveillons, réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison, dans la maison des hommes? Ne suis-je pas prisonnière depuis le jour où la nuit? Petit, tu n'es pas venu pour me tuer, alors ne me tue pas. Tu aurais trop peur, tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous, croyez-nous, c'est le matin. Le matin, c'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. À la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury a décidé de répondre non. Et comme ils étaient tous allés durs se sont transformés en oiseaux qui se sont mis à chanter l'éternité. À la question, voulez-vous prendre cet homme?